おかしい、おかしい。ひーひーひ
Bonsoir, votre émission Feeling la presse vous propose trois thèmes à savoir. Rapport d'exécution du budget 2009 à l'Assemblée nationale. Les députés réclament des sanctions politiques contre les membres du gouvernement impliqués dans la mauvaise gestion des finances publiques. Ensuite, dans un rapport publié mardi dernier sur la démocratie pendant les cinq dernières années en République démocratique du Congo, l'ONG sud-africaine OSISA affirme que la participation à la vie politique n'a pas été effective. Enfin, ouverture lundi dernier à Kinshasa de la 11e conférence diplomatique. 73 journalistes participent à ces débats. Il s'agit de Médard Mbouya Mangala. Il est journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise FMC en Fibre. Bonsoir, Médard Mbouya Mangala.
Bonsoir, Guillaume.
Faustin Kouedia Sala. Il est journaliste au journal Le Potentiel. C'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir, Faustin Kouedia Sala.
Bonsoir, Guillaume.
Charles Kabongo, il est directeur de l'agence congolaise de presse, ACP, ville de Kipito, Bandundu. Bonsoir Charles Kabongo.
Bonsoir Guy.
Comment la presse chinoise a traité les thèmes retenus pour le débat de ce soir, on le saura en suivant cette revue de presse que nous propose Samuel Kassiak.
Bonsoir. Plusieurs sujets ont été diversement abordés par les journaux Paris cette semaine à Kinshasa. Commençons par les phares qui titrent « La machine de l'AMP grince, la plateforme confrontée au défi de sa cohésion ». Pour ce journal, la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale a constaté un solde négatif de 60 milliards de francs congolais dans l'exécution du budget 2009. Une situation qui a suscité de nombreuses critiques du premier ministre Adolphe Mouzito, aussi bien par les députés de la majorité au pouvoir que par ceux de l'opposition parlementaire. Certains sont remontés jusqu'à sa gestion en tant que ministre du budget et ont donné l'impression de vouloir chercher la petite bête, souligne ce journal. L'Avenir de son côté qualifie cette situation de lynchage politique programmé à l'Assemblée nationale contre Adolphe Mouzito, ce qui est perçu comme une déception par plus d'un observateur de la scène politique congolaise, conclut l'Avenir. Sur un autre registre, le phare qui revient sur le rapport d'OSISA tire une sonnette d'alarme sur la marche de la démocratie durant les cinq dernières années en RDC. Selon ce journal, cette ONG dénonce la politisation de la CENI, les défaillances au niveau du contrôle parlementaire, la multiplication cancéreuse des partis politiques et le déséquilibre entre les différentes institutions. Terminons cette revue de la presse avec l'ouverture lundi dernier à Kinshasa de la 11e conférence diplomatique. Le potentiel souligne à ce sujet que la diplomatie de la paix et du développement figure au centre de cette conférence diplomatique qui se déroule à Kinshasa du 29 novembre au 4 décembre 2010. L'observateur de son côté note qu'en vue de sauver l'image du pays et pour besoin d'efficacité, Joseph Kabila va réduire les missions diplomatiques de la RDC à l'extérieur du pays. Voilà c'est tout pour cette revue de la presse. Au revoir.
Merci Samuel Kassiak pour cette revue de la presse. Un petit commentaire, Médard Ndial Mangala. Vous êtes journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC. Comment vous commentez le travail fait par la presse cette semaine?
Ben, elle est restée dans l'objectivité des faits et n'a rapporté que des faits qui sont intervenus parce que généralement, ça dépend du niveau. Si on est assez documenté, si on est assez spécialiste, on a à ce moment-là des talents pour aller au-delà des faits. Sinon, on se contente des faits de l'actualité.
Faustin Kouedia Sala, vous êtes journaliste au journal Le Potentiel, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Votre commentaire par rapport au travail de la presse écrite qui m'en est.
Bon, disons, pour abonder presque dans le même sens que mon conseil Médard, je dirais, évidemment, la presse a présenté le phénomène. Mais ce qu'on regrette généralement dans la presse chez nous, c'est qu'on ne va pas au-delà de ce qui est dit ou de ce qui est annoncé. Comme quand on parle par exemple de la diplomatie, de la paix, du développement, j'aurais souhaité que dans la presse, on puisse s'interroger comment la RDC pense faire cette diplomatie de paix et de développement. Parce que je crois, avec tout le temps qu'on a dû passer, depuis pratiquement 90, on a eu à expérimenter la démocratie, on a présenté l'intention de jeter des bases d'une société réellement démocratique, ouverte à l'extérieur, ainsi de suite. Et quand on lance ce genre d'idées, c'est l'occasion pour la paix de s'en saisir, c'est un peu de s'interroger. Même quand vous évoquez le déficit qui a été constaté au premier semestre 2019 sur le budget. C'était une belle occasion pour la presse de se demander comment finalement sont gérés les comptes de l'État ici. Pourquoi l'Assemblée nationale a dit attendre jusqu'en 2010 pour s'interroger sur ce qui devait se faire en 2009.
Voilà,
ce sont des questions qu'on devait se poser. Ouais. Mais malheureusement, la presse, nous, on se limite à ce qui est dit, à ce qui est fait. En fait, c'est une presse qui a tout l'air de faire la communication officielle, alors qu'on aurait souhaité que la presse s'interroge, pose une vraie question sur lequel l'opinion voudra avoir des réponses.
Charles Sabongo, vous êtes directeur de l'agence congolaise de presse ACP Ville de Quito Bandundu. Et quelle est l'actualité qui a dominé dans la province de Bandundu cette semaine?
Oui, ici chez nous à Kikwit, c'est toujours les 6 événements du début du mois de novembre qui sont encore d'actualité. Parce que dernièrement, il y a des jours, le grec Joseph Kikwit, Monseigneur Edouard Mounoun a réuni les jeunes de toutes les confessions religieuses à la cathédrale pour leur parler de l'amour du prochain, du respect de la vie humaine et de leur demander encore d'éviter l'exclusion entre elles. Parce qu'on a remarqué que pendant ces événements, ce sont les jeunes qui étaient à la base de beaucoup de exclusions. Il a parlé de la vie humaine parce que vous savez qu'il y avait mort d'hommes, il y a un homme qui était brûlé vif parce qu'il ne parlait pas la langue de ce coin. Il a demandé aux jeunes, pendant cette période de la mort, de l'avènement de Jésus-Christ, pour que les jeunes puissent se repentir et puis qu'ils ne puissent pas reprendre encore les événements de Christ en mémoire.
Merci. Nous abordons notre premier thème de ce soir, rapport d'exécution du budget 2009 à l'Assemblée nationale. Les députés réclament des sanctions politiques contre les membres du gouvernement impliqués dans la mauvaise gestion des finances publiques. C'est l'une des recommandations faites vendredi dernier par les élus du peuple lors du débat général sur le rapport d'exécution du budget 2009 présenté par la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale. La Commission estime dans son rapport que le gouvernement ne se soucie ni de la maîtrise des dépenses publiques, ni du respect de la loi financière. Les grandes lignes de ce rapport avec Julien Damonier.
Le rapport d'exécution du budget pour le premier semestre 2009 présenté par la Commission économique et financière indique que le niveau de dépenses par rapport aux recettes réalisées pour la même période fait ressortir un déficit budgétaire de plus de 60 milliards de francs congolais. Selon le même rapport, le taux d'exécution des dépenses est de 77,9%. Pour la Commission, ce taux cache, je cite, des grands dépassements budgétaires en violation flagrante de la loi de finances de l'année. Fin de citation. Par ailleurs, la Commission indique que le dépassement va de 17 à 402%, ce qui dénote, d'après la Commission, une mauvaise gestion des finances publiques par le gouvernement. Toujours d'après elle, d'autres dépenses n'ont connu qu'une exécution mitigée. Autre constat, la surconsommation des crédits budgétaires par quelques services et institutions politiques, autant de dysfonctionnements constatés dans la gestion. Pour les députés, tous ces ministres doivent être sanctionnés politiquement. En clair, leur demander de démissionner.
Médard Mbouyal Mangala, avez-vous été surpris par la réaction des députés nationaux face au rapport sur le bilan d'exécution du budget 2009?
Mais ce qui me surprend plutôt, c'est la manière, la procédure ou la méthodologie adoptée par les députés. Ils demandent la sanction politique aux membres du gouvernement.
Ils sont touchés dans la mauvaise gestion.
Oui, justement. Mais c'est eux qui ont le pouvoir. Le Parlement représente l'autorité budgétaire. Et à ce titre, au travers des interpellations, des motions de défiance et autres, ils ont des instruments entre leurs mains. Mais aujourd'hui, les députés ne sont plus capables de faire actionner ces instruments. Donc le pouvoir est entre leurs mains.
Mais nous sommes dans un contexte où la séparation du pouvoir est de mise.
Oui, mais dès qu'il y a des traces de mauvaise gestion, au travers des interpellations, des motions, ils peuvent aussi actionner ces mécanismes et à obtenir des sanctions. Parce qu'on ne peut pas s'attendre maintenant que dans une majorité qui est à la veille des élections, que le Premier ministre ou parfois même accepte de faire participer le ministre pour mauvais
jeu. Il n'appartient pas aux cours de tribunaux de sanctionner.
Voilà, peut-être un autre mécanisme. Or, depuis 2006, On a comme l'impression que les cours de tribunaux ne veulent pas se saisir d'un certain nombre de dossiers, à la fois abordés au niveau de l'Assemblée nationale, abordés au niveau des médias. Donc nos magistrats sont devenus aussi trop politiques, trop diplomates, qui ne veulent plus toucher. Alors donc vous voyez ce qui va nous arriver.
Faustin Claudia Sala, on a l'impression depuis un certain moment que les cours de tribunaux ne veulent pas se saisir des questions qui sont débattues à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Donc moi je crois il faut pas directement s'attaquer aux cours de tribunaux, surtout pour cette matière concernant les rapports rendus par la commission ECOFIN sur le budget pour la période de janvier à juin 2009. Parce qu'il faudra qu'on recadre les débats. Parce que depuis un certain temps, vous rappelez, chaque fois que le gouvernement présentait le budget pour le prochain exercice, on l'épargnait du rapport de l'exécution du budget de l'exercice en cours. Vous vous rappelez tout à l'heure, là, quand le budget pour l'année 2011 a été déposé à l'Assemblée nationale pour examen, on devait en principe entamer d'abord, et je me rappelle même, le président de l'Assemblée nationale en avait fait une priorité. Il dit non, en tout cas, l'Assemblée nationale n'examinera pas le budget 2011 tant qu'on n'a pas une idée sur ce qu'a été le budget.
C'est une condition posée par l'Assemblée nationale.
Mais où en étions-nous finalement? On a dit oublier cette recommandation pour directement s'attaquer au budget 2011. Or, depuis un certain temps, cette pratique s'est institutionnalisée. Si bien que le gouvernement sait qu'en présentant le budget, il n'aura de compte à rendre à personne sur ce qu'il a exécuté avant. Et on a laissé pourrir la situation, malheureusement. Parce que moi, je pense avec cette attitude de l'Assemblée nationale, c'est comme si on jouait juste au rattrapage. On sait, on est en fait à la dernière ligne droite de la législature. Demain, il faudra rendre compte à son électorat. Parce que comment voulez-vous que l'Assemblée nationale se ressaisisse en 2010 sur quelque chose qui a été fait depuis 2009? Est-ce qu'il n'y a pas eu de mécanisme de contrôle du budget? On sait que l'Assemblée nationale, c'est l'autorité budgétaire, c'est qu'il y a les instruments du contrôle du budget. On sait qu'il y a différentes structures de l'État qui sont là pour contrôler les finances publiques. Qu'ont-ils fait pendant tout ce temps-là? Alors moi, je pense qu'il ne faudra pas, quand vous avez posé la question, s'attaquer directement au Conseil tribunal. Et je me rappelle même quand le rapport a été présenté, il y a un député de la majorité, évidemment, qui a essayé de replacer le débat. Il dit, les rapports de la commission, ce n'était pas une commission d'enquête. La commission ECOFIN a rendu son rapport dans le cadre de son fonctionnement normal. Et la commission ECOFIN ne pouvait pas arriver à des sanctions directement tant qu'il n'a pas mené des enquêtes à charge ou à décharge. Parce qu'il y a une différence entre rendre un rapport par rapport à son fonctionnement normal et mener des enquêtes pour soit dénicher tout ce qu'il y a comme erreur, tout ce qu'il y a comme écart. Alors, le député a dit, si l'Assemblée nationale a bel et bien l'intention de sanctionner des coupables compte tenu du rapport présenté par la commission ECOFIN, que l'Assemblée nationale se ressaisisse, elle met en place une commission d'enquête qui va réellement enquêter maintenant sur les faits présumés rendus compte par la commission ECOFIN. Comme ça, là, on pourra aboutir aux sanctions. Parce que les cours des tribunaux, pour qu'ils interviennent, il faut qu'il y ait quelque chose en amont. Et pour qu'il y ait quelque chose en amont, il faut que les faits pour lesquels les cours des tribunaux vont ouvrir une instruction judiciaire, qu'ils aient au moins une base juridique assez solide. Alors, pour les rapports de la commission, en tout cas jusque-là, on ne sait pas directement les renvoyer aux cours des tribunaux tant que la procédure prévue par le règlement de l'intérieur, même l'Assemblée nationale, n'a pas été respectée en certains points.
Charles Kabongo, il serait préalable qu'une commission d'enquête soit mise sur pied pour qu'en aval, les cours des tribunaux puissent se servir de cette question. Comment vous réagissez par rapport à cette réflexion?
Oui, mais pourquoi on fait aller vite aux cours des tribunaux? Les parlementaires ont le pouvoir d'investir le gouvernement et de les sanctionner. Comme ils ont ces pouvoirs-là, ils commencent d'abord à sanctionner les membres concernés par une motion. À ce moment-là, ils en auront maintenant la voie facile à la justice de bien intervenir. Vous voyez, parce que, comme mes confrères venaient de le dire, nous constatons qu'ils veulent maintenant se rattraper. Ils veulent qu'ils le nos parlementaires, ils veulent rattraper. Pendant beaucoup de temps, ils n'ont rien fait. Et maintenant, ils trouvent qu'ils ont des comptes à rendre à la population ou bien au peuple, qu'on considère toujours comme souverain primaire. C'est comme ça qu'ils commencent à devenir ministre. Vraiment, l'arrivée tardive de ce rapport nous interpelle. On a traité ce rapport de 2010 sans avoir terminé le rapport de 2019. Et je trouve qu'il y a quelque part là où quelque chose ne marche pas.
Oui, Médard Mbial Mangal, le député Tupsanas Konfongi, nous l'avons dit ici, ont réclamé des sanctions. Et pensez-vous que les vœux des députés pourraient se réaliser?
Non, moi, nous sommes face à une action marketing. Disons-le, les députés veulent améliorer quelque part le blason terni Alors ils veulent se saisir de cette opportunité. Je rappelle que c'est eux qui ont le pouvoir. D'ailleurs, depuis les élections de 2006, il a été démontré que la majorité s'est toujours soudée autour de ce qui concerne l'interpellation de Monsieur de Duchamp à tous les niveaux. Alors, quelle que soit la majorité qui peut s'exprimer. Et dans ce cas, au cas où un certain nombre de gens de la majorité veulent quelque chose, peut-être c'est une manière de forcer la main, où on veut en quelque sorte quitter la ligne politique généralement conclue au sein de la majorité. Mais de manière générale, toutes les motions de méfiance, d'interpellation, ça n'a jamais produit d'effet. Parce qu'en dernière minute, ils finissent par respecter le mot d'ordre. Donc, à ce sujet, on ne peut pas faire confiance aux députés de la majorité en ce qui concerne les dossiers en étude.
Pourtant, par rapport à cette question, même les députés de la majorité sont disposés à sanctionner les membres du gouvernement qui sont impliqués dans la mauvaise gestion des finances publiques.
Bon, normalement, ça devait être ainsi. Parce que c'est aussi une bonne façon de présenter l'image de la majorité, une bonne manière de présenter l'image du président, de ceux qui dirigent, c'est d'accepter dans leur fait que déjà soient sanctionnés. Le fait de sanctionner le ministre ne signifie pas que toute la majorité est corrompue ou est disposée à la corruption. La majorité devait donner ces exemples, mais il y a eu beaucoup de cas où on attendait que la majorité puisse s'exprimer, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est comme si, bon, on se dit, si on cédait, on va dire, non, ils n'ont pas travaillé pour une communication qui puisse rassurer l'opinion publique. La majorité de ce côté-là, disons, a échoué parce qu'elle est restée plus collée aux intérêts des individus, évidemment, membres de la majorité, mais sans donner des signaux forts sur la vision de la gouvernance politique.
Costain Kouzakala, depuis le début de cette législature, nous l'avons vu, hein, toutes les démarches qui ont été menées par les députés pour sanctionner, pour punir les membres du gouvernement ou les mandataires publics n'ont pas abouti. Mais maintenant que certains députés de la majorité disent qu'ils sont disposés à punir, vous pensez que cette fois-ci, cette démarche pourrait aboutir à des sanctions?
En fait, bon, je reviens toujours à ce que j'ai dit au début. En fait, c'est comme si, bien sûr, nous regrettons qu'on ait laissé courir la situation jusqu'à ce niveau. Parce que vous vous rappelez, pour le même gouvernement, bien avant qu'Adolphe Mouzouki soit Premier ministre, déjà avec le Premier ministre Gizenga, il y a eu des tentatives qui ont été menées. C'est pas parce qu'une action a été initiée par l'opposition que normalement la majorité doit faire bloc pour obstruer le chemin. Et malheureusement, c'est ce qu'on a constaté. Il y a des cas qui ont été soulevés par la majorité, par l'opposition, par deux fois même. En fait, chez nous, il faut pas que l'Assemblée nationale fonctionne de manière tout à fait mécanique. C'est-à-dire que les deux courants qui siègent à l'Assemblée nationale, c'est la majorité et l'opposition, obéissent de manière tout à fait aveugle aux ordres de leur plateforme. Malheureusement, c'est ce qu'on a senti. Et c'est ce qui a fait que la situation puisse aller de pire en pire, pour qu'aujourd'hui au moins, parce que ce qui est particulier, c'est que cette fois-ci, c'est la majorité qui constate que réellement quelque chose ne va pas. Je me rappelle le 26 novembre, quand on présentait ce rapport de COFIN, tous les députés de la majorité qui passaient au podium pour soit être motivés ou pour soit essayer un peu de poser des questions à la commission, ils commençaient toujours par se présenter comme étant « je suis de la majorité ». Pour dire que non, le Premier ministre vient de notre camp, mais en tout cas, on a beau fait de le protéger, mais cette fois-ci, il a dépassé les limites. Il faut réellement que nous le sentions.
Et j'ai dit, et je pensais qu'il y a de la sincérité dans ce qu'il dit.
Là, c'est la question qu'on se pose. Et je crois même le potentiel avait titré juste le samedi 27, quand on avait écrit, en fait, on avait dit, est-ce que la démarche de l'Assemblée nationale, est-ce une façon pour se régler juste de compte, ou c'est juste une façon de faire chanter le gouvernement? Quand on dit faire chanter le gouvernement, parce qu'on sait que généralement, ça se termine toujours par une rencontre dans un lieu secret de la ville, où l'argent certainement va circuler.
Bon, c'est ce qui s'est dit, hein, mais il n'y a pas de preuves pour
répéter là. Et puis on va taire la démarche. Alors, si réellement la majorité aujourd'hui qui pèse à l'Assemblée nationale se ressaisisse, et qu'elle a réellement l'intention de se ressaisir, parce qu'il faudrait que opposition majorité, on puisse à un moment donné s'arrêter et se dire que non, on a été mandaté par la population. On n'a pas été mandaté par... Parce qu'il y a des gens qui sont députés, c'est pas la majorité qui les a cooptés. Ils ont été choisis par la population, et s'il y a un intérêt qui doit défendre, ça ne peut être que l'intérêt de la population. Or, malheureusement, pendant tout ce temps, les intérêts qui ont été défendus à l'Assemblée nationale, ce sont les intérêts de leur plateforme. Parce que ma plateforme est attaquée, je dois faire en sorte que même si l'objet pour lequel on soulève le débat et juste, mais comme ça s'attaque à ma famille politique, je dois faire en sorte que cette action-là n'aboutisse pas. Quand ce soir est saisi aujourd'hui, on ne peut qu'applaudir, mais je souhaite aussi que cette action aille jusqu'au bout.
Et ça, Kadengo, comment vous pouvez expliquer cette sorte de contradiction? D'un côté, le gouvernement affirme que les finances publiques sont bien gérées, c'est d'ailleurs ça l'argument qui a été avancé pour justifier l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Mais de l'autre, ce rapport dénote la mauvaise gestion des finances publiques. Comment vous expliquez cette contradiction?
Oui, c'est ce qui nous étonne. Vraiment, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. C'est comme ça qu'on peut quand même recourir même à la Cour des comptes pour un peu de partage et pour voir réellement s'il y a eu des tournements.
Oui, merci. Nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Dans un rapport publié mardi dernier sur la démocratie pendant les 5 dernières années en République démocratique du Congo, l'ONG sud-africaine OCISA affirme que la participation à la vie politique n'a pas été effective. La participation à la vie politique n'a pas été effective en République démocratique du Congo pendant la législature en cours. C'est ce que conclut le rapport publié mardi dernier à Kinshasa par l'ONG internationale Initiative pour une société ouverte en Afrique Australe aussi ça en sigle, à travers son programme AfriMap, qui est un programme qui a comme vocation faciliter la bonne gouvernance en Afrique. Ce rapport de 264 pages est une évaluation de 5 ans de démocratie en République démocratique du Congo. Le principal rédacteur de ce rapport, le professeur Ngoma Binda, évoque ce qu'a été le travail du Parlement pendant cette période. On l'écoute.
Concernant les contrôles du Parlement sur ses propres décisions vis-à-vis de l'exécutif, vous savez autant que nous que la plupart des décisions qui sont prises concernant les interpellations, les enquêtes parlementaires, etc., n'ont jamais abouti. Il y a la commission Le Pindola qui traîne, il y a la commission Bassandéja qui traîne, et il y a plusieurs autres cas des détournements de corruption qui n'ont jamais été véritablement amenés jusqu'au bout. Voilà, à ce niveau, nous avons pensé que la participation du citoyen, ou en tout cas la prise en compte des préoccupations du citoyen, du public, du peuple, n'a pas été véritablement effective.
Médar Mbouyal Mangala, comment vous analysez les conclusions de ces rapports selon lesquels la démocratie n'a pas fonctionné comme il se doit en République démocratique du Congo pendant ces 5 dernières années?
Mais justement, nous allons de le dire, c'est à la suite des alliances. Les députés qui se sont retrouvés au sein de leurs alliances ont privilégié des intérêts de l'alliance, des alliances que des intérêts de la population congolaise. À ce moment-là, c'est vrai qu'on est représentatif, mais dans la manière d'aborder des grandes questions, on est resté pratiquement prisonnier des plateformes ou prisonnier des alliances. Et c'est ce qui a tout fait l'expression d'abord au niveau des députés, mais il y a aussi le fait qu'il y a un mécanisme qui est resté inachevé. On devait organiser des élections locales et urbaines. On ne l'a pas fait. Donc, peut-être au travers des élections locales et urbaines, on allait peut-être davantage permettre l'expression de la population au niveau le plus bas, ce qui n'a pas été le cas. Donc, c'est des éléments qui nous permettent d'affirmer que les alliances ont fini par étouffer les expressions politiques de type individuel.
Pour dire cela, les alliances ont été à la base de ce déficit démocratique, comme le dit Médard Mbouyal Mangala. Vous partagez ce point de vue?
Bon, bien sûr, au-delà de cet aspect, moi je dirais en fait, si on est arrivé à cette conclusion, ou si aussi ça est arrivé à cette conclusion, une conclusion qui se justifie, moi je pointe directement du doigt les formations politiques. En fait, les partis politiques, moi je suis convaincu que la plupart d'entre eux ont échoué dans leur mission. Parce qu'un parti politique, c'est pas seulement le pouvoir. Un parti politique, dès l'instant où vous avez une masse de gens qui adhèrent à votre mouvement politique, parce que quand on adhère à un mouvement politique, on adhère par rapport à un idéal. Et vous, chef de parti politique, vous avez le devoir de former toute cette masse de gens-là. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé chez nous. En tout cas, depuis 1990, les formations politiques ont été créées chez nous pour un seul objectif, la conquête du pouvoir. On a ignoré que ces gens-là qui vous accompagnent pour que vous accédiez au pouvoir, ces gens-là, il faut quand même qu'ils aient un minimum d'éducation politique, il faut quand même qu'ils aient un minimum d'éducation civique, il faut qu'ils aient un minimum, ne serait-ce que des notions les plus fondamentales de démocratie. Malheureusement, nos partis politiques, ils ont oublié tous ces aspects-là. La seule chose qui les intéressait, c'est comment accéder au pouvoir. Et on a oublié qu'il y a des militants qui sont derrière eux. Ces militants ont besoin d'une formation. Ces militants ont besoin d'être encadrés. Ces gens-là, on les a laissés pratiquement dans la rue. Et ils se sont formés dans la rue. C'est que chez nous, notre démocratie-là, c'est une démocratie de la rue. C'est pas pour rien qu'il y avait un moment où on parlait de parlementaires debout. Si vous avez besoin d'une information, il fallait même pas lire le journal. Il fallait dans un petit coin là où les politiciens, entre guillemets, discutent politique ou peut-être vous pensez trouver une information. Ces gens-là, comme ils n'ont pas trouvé l'information dans leur formation politique, ils sont allés le chercher dans la rue. Et à part le parti politique, il y a aussi la société civile qui a totalement démissionné. Et la société civile, dès l'instant où elle a été politisée, elle s'est perdue, elle n'a plus de repères. On l'a remarqué même dernièrement à la personne qui se faisait passer pour le président de la société civile congolaise. Elle s'est finalement révélée comme étant un acteur politique actif.
Donc, vous parti politique. Vous comprenez le fait que il y a un déficit de démocratie en République démocratique du Congo.
Le déficit de la démocratie, moi je suis tout à fait d'accord. Le déficit de la démocratie dans les chefs de la population congolaise, en tout cas s'il y a un responsable, c'est les gens qui se sont donné la charge d'encadrer cette population-là. C'est ces gens-là, c'est pratiquement d'abord un, les leaders politiques. Et après, il y a la société civile qui s'est voulu en fait servir de médium entre la population et les acteurs politiques. Et si on veut en fait revenir, ou peut-être contourner les conclusions du rapport de l'OCISA, les conclusions par ailleurs que je vous dis être vraies, auxquelles j'adhère totalement, il faut que nos partis politiques, même les acteurs de la société civile, parce que les partis politiques, comme je l'ai dit, c'est vrai, quand on crée un parti politique, c'est pour la conquête du pouvoir. Mais même si on doit conquérir le pouvoir, on doit le conquérir avec des gens qui doivent vous accompagner. Et ces gens-là ne peuvent pas être des abrutis. Il faut les former, parce que ces gens-là, un jour, ils seront obligés de se soumettre à l'exercice démocratique. Quelqu'un qui n'a pas été formé, qui n'a aucune notion, même pas les ABC de la démocratie, va vous former des gangsters politiques. Et c'est dangereux.
Et Charles Kabongo, les alliances, les partis politiques seraient à la base de cette situation de déficit de démocratie en République démocratique du Congo. Mais la publication d'un tel rapport n'est-elle pas aussi un signe que la démocratie est en marche en République démocratique du Congo? Parce que nous savons que dans un contexte de dictature, ce genre de rapport n'aurait pas droit d'exister.
Oui, je dis que j'épouse votre idée et j'épouse également l'idée de mon confrère qui vous a précédé. C'est pour vous dire que nous venons de naître il y a combien de temps que nous avons passé dans la dictature. Et maintenant, un bébé qui est né aujourd'hui ne va pas marcher le même jour. Nous partons petit jusqu'à ce qu'on va atteindre la maturité. Il ne faut pas qu'on nous compare directement avec le pays de la vieille démocratie, comme les États-Unis, etc. Je voulais faire revenir sur le problème des partis politiques. Il est vrai que les partis politiques, c'est là où on doit former le leader. Les leaders, les partis politiques ne sont pas là seulement pour la conquête du pouvoir, comme l'a dit mon confrère. Mais c'est une école de la démocratie. C'est là où les gens apprennent à changer les mentalités. C'est là où les gens apprennent à gérer même les choses publiques. Mais ce sont des choses qui ne se sont pas bien organisées ici chez nous. Les gens cherchent seulement à avoir le pouvoir et aller de l'avant sans tenir compte du peuple. Parce que tout ce que nous avons de parler, la part du peuple n'est pas là. Vous voyez, les situations de grève sont partout. Le peuple ne trouve pas sa part. Ce sont les autres qui partagent les gâteaux.
Oui, mesdames, Mouyal Mangala, s'il faut vraiment faire un bilan de façon honnête, un bilan de la démocratie au Congo, vous pensez qu'il n'y a pas eu de choses qui ont été faites, il n'y a pas eu d'avancées? Vous pensez que tout est négatif, absolument négatif?
Non, le débat ici vise à ce qu'on puisse améliorer. Nous sommes à la tête d'une société de l'excellence. Alors lorsque nous voulons chercher de l'excellence, nous n'allons pas nous contenter parce que nous avons fait tel fait du bien et donc nous devons persévérer dans le mal. Non. Le souci, c'est d'améliorer, c'est de rendre la société politique performante. Jusque-là, la société politique congolaise n'a pas encore atteint le niveau de cette performance. Nous sommes à la source de la qualité. La qualité, cette qualité, ça doit transfigurer à travers la vie du citoyen congolais. Lorsqu'on sort d'une démocratie et que le citoyen doit continuer à vivre dans la pauvreté la plus absolue. Alors, on se dit qu'il y a un problème. Donc, on est chrétien, le pays est pas la majorité des dirigeants qui se disent des chrétiens, mais le mode de gestion de la République pose problème. Est-ce que nous prenons conscience que nous sommes à la fois des chrétiens et que nous devons rendre service à notre propre population? Que nous voulons entrer dans l'histoire par la grande force. Mais pouvons-nous entrer dans l'histoire à travers des petits gestes qu'on est en train de faire? On se voit si je vous ai donné ce stylo, et donc le papier, ça peut revenir après 2 ans. Et donc voilà des petites choses qu'on est en train. C'est vrai, des avancées, encore que politiquement, on aime le mot avancée, c'est ça qu'il y a eu des avancées, mais de manière globale, le résultat global pose problème. C'est là la grande question.
Quel est l'impact que ces rapports pourraient avoir sur la démocratie, la République démocratique du Congo?
Bon, moi, je dirais, disons, de mon point de vue, je ne voudrais pas être totalement pessimiste. En fait, ce qui est vrai, c'est pas. Je félicite même les gens qui ont rédigé le rapport de l'OSCE. Ça va, ils parlent du déficit. Ils ne parlent pas du manque de la démocratie. La démocratie est déjà là, sauf qu'il faut l'améliorer. Je crois que c'est le terme même que Mbuyal a utilisé, c'est-à-dire tendre vers l'excellence. Parce que la démocratie, c'est une école où on apprend tous les jours. Et moi, je souhaiterais qu'on revienne sur la définition même de la démocratie, de la manière la plus vulgaire. Qu'est-ce qu'on appelle démocratie? C'est le pouvoir du peuple, par le peuple. Il faut que les dirigeants politiques, des gens qui ont reçu un mandat politique, reconnaissent que ce mandat-là, ils ne le détiennent pas, ni de leur formation politique, ni parce qu'ils sont issus d'un clan de bourgeois, ou ni de leur famille, ils ne détiennent pas que c'est le peuple qui les a mandatés. Il faut que dans tout ce qu'ils font, tout acte qu'ils vont poser, qu'ils sachent qu'un jour on aura à rendre compte. Et même dans la manière de gérer, il faudrait que chaque jour, que les gens sachent que non, le peuple a droit de connaître comment est géré le pays. Il ne faudrait pas qu'on entretienne une certaine opacité dans la gestion du pays. Dans une société démocratique, la gestion du pays ne peut pas être un mystère. C'est pourquoi j'ai condamné le rapport de l'Assemblée nationale qui est venu un peu tard, 2009. C'est très loin. Il faudrait que chaque jour, parce que la loi financière dit, chaque fois que le budget est voté, l'Assemblée nationale a le droit de le suivre pas à pas.
Et on a passé sous silence. Le budget 2007.
C'est comme si, 2008. C'est comme si pratiquement, bon, le terme est un peu terre à terre, c'est comme si le peuple qui a donné, qui a mandaté déjà l'Assemblée nationale, c'est comme si le peuple qui a céder une partie de son pouvoir, parce que c'est le peuple qui est le souverain primaire. C'est comme si ce peuple-là a été, si on peut s'exprimer ainsi, roulé dans la farine. Roulé dans la farine par des gens en qui il avait placé sa confiance. Et dans une société démocratique, il faut que nos dirigeants politiques, tout celui qui est investi d'un mandat politique, sache qu'il a l'obligation de rendre compte. La démocratie ne peut commencer que par là.
Merci. Charles Kabongo, votre réaction?
Et je voulais dire quand même, du côté politique, nous pouvons parler par exemple de légitimité du pouvoir. Tout le monde reconnaît que les institutions sont venues des urnes. Et tout le monde connaît que pour arriver à accéder à ce pouvoir, au pouvoir dans notre pays, il faut passer par la voie des urnes. Ça, c'est quand même un acquis. Mais le reste, vraiment, nous devons faire un effort, nous devons améliorer. C'est comme ça que je félicite ce rapport-là. Ça va nous stimuler à améliorer et à aller de l'avant parce que nous devons quand même atteindre l'objectif que nous sommes assignés et continuer toujours avec la démocratie. Mais tout ça, ça peut se faire avec l'intervention de la société civile. C'est comme le conseil vient de le dire. Il faudra quand même que nous, la société civile, s'implique aussi dans la démocratie. Les gens de la société civile, quand ils passent à des conférences, comme ceux qui sont partis en Santibi, à leur retour, on les a mis au gouvernement, et directement ils ont quitté la société civile, ils sont devenus politiciens. C'est pour vous dire que c'est un peu compliqué, nous devons faire un effort, si vous êtes à la société civile, même si vous partez au gouvernement, après, si vous passez votre temps au gouvernement, vous revenez comme membre de la société civile. Ça sera une bonne chose.
Merci, nous abordons notre dernier thème de ce soir. Ouverture lundi dernier à Kinshasa de la 11e conférence diplomatique. Tous les diplomates congolais sont autour du chef de l'État pour faire un diagnostic sans complaisance de la diplomatie congolaise. Il s'agit d'évaluer les forces et les faiblesses des 50 dernières années dans ce domaine. Les choses vont réellement changer, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Alexis Thambwe Mwamba. Le président de la République a insisté sur une diplomatie de développement, de paix et de stabilité. Joseph Kabila estime que pour réussir, il faut entre autres réinstaurer la rigueur dans les recrutements des diplomates et pratiquer la bonne gestion des ressources. On l'écoute.
nos missions diplomatiques et postes consulaires doivent faire l'objet d'une profonde restitution. Le nombre de nos missions diplomatiques et postes consulaires doit être réduit à la baisse et leur distribution géographique est ajustée sur base notamment du principe de réciprocité et de la configuration en constante évolution des pôles d'influence dans le monde. 3. Les effectifs aujourd'hui déployés doivent être ramenés au strict minimum et déployés en fonction des objectifs spécifiques assignés à chaque mission diplomatique, l'environnement dans lequel celle-ci se trouve et des exigences d'efficacité perpétuelle. 4. Les économies résultant du surdimensionnement de notre présence à l'étranger doivent en priorité être affectées au renforcement des moyens d'action de notre diplomatie, au rapatriement des diplomates appelés à la centrale et à l'amélioration des conditions de vie et de travail de ceux en poste.
Madame Dial Mangala, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC en Sigue. Comment vous avez accueilli la tenue de cette conférence diplomatique?
C'est une énième conférence diplomatique. Nous sommes un pays de contrastes. C'est vrai, on demande, on veut améliorer, mais il est question d'agir. En fait, quel est le vrai problème qui se pose dans la diplomatie congolaise? C'est d'abord la suprématie du cabinet politique sur l'administration. Ça pose un réel problème. Et avec comme conséquence, l'imposition des diplomates politiques, comme on les appelle. C'est-à-dire, on prend les politiques, on les place comme diplomates pour tel ou tel intérêt. Et ça crée la suffisance des diplomates professionnels. Mais autre élément, c'est la pauvreté. Les diplomates congolais sont tentés de vivre dans une misère indescriptible. Et c'est une sorte de martyrs qui sont tentés de subir ou que leur pays est en train de leur faire subir. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de quelqu'un qui n'a pas de logis, mais qui est diplomate, mais qui n'a pas de logis, qui ne sait même pas nourrir ses propres enfants, ou qui n'a pas de téléphone, qui n'a pas accès au téléphone, qui n'a pas accès à l'eau? Donc, à ce moment-là, ça ne peut pas servir la diplomatie. Donc, la pauvreté des fonctionnaires ou des diplomates en fonction, en poste à l'étranger, ne peut pas servir la diplomatie. C'est une contradiction. Et un certain nombre de actes que nous sommes en train de poser. Regardez, le visa congolais est le visa le plus cher au monde. Est-ce que ça participe à aider la diplomatie? Non. Regardez, nous sommes un pays, de par nature, un pays touristique. Mais nous sommes un pays où n'importe qui croit que la caméra allumée peut être une gueule qu'on ouvre. Un appareil photo pose problème dans nos ports et aéroports. Et on continue à se référer aux lois coloniales qui datent de plus d'un siècle. Et nous recherchons qu'est diplomatique. Tous les éléments d'effort pour symboliser notre diplomatie, la manière de gérer nos administrations, la manière de gérer notre police, la manière même de gérer notre armée, finalement, tous les actes que nous posons à gauche et à droite participent à refléter notre diplomatie. Mais on ne peut pas faire la diplomatie de paix et de développement dans la pauvreté.
Oui, Faustin Kodia Sala, je rappelle que vous êtes journaliste au journal Le Provincial, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Beaucoup de choses ont été dites au sujet de la diplomatie congolaise. Pensez-vous que les assises de Kinshasa pourraient constituer une thérapeutique à cette question?
Bon, je dirais comme Mangal, en fait, voilà un forum de plus. Un forum de plus qui a posé un vieux problème. Un vieux problème pour lequel jusque-là on n'a jamais apporté une solution.
Quel est ce problème?
Le problème justement, c'est cette démocratie de paix et de développement. Comment la RDC attend réellement parvenir à une diplomatie de paix et de développement? C'est ça le vieux problème. Et c'est depuis 60 qu'on pose ce problème, et c'est depuis 60 qu'on n'arrive pas non plus à sortir de ce cercle vicieux-là.
Cela pourrait être dû à quoi?
Moi, le problème, je pense, parce que l'image d'un pays, c'est pas seulement les diplomates qui sont obligés de la véhiculer. Moi, je crois tout devait partir chez nous ici. Il faut d'abord qu'on parle de la refondation de l'État congolais. Il faut d'abord constituer une nation congolaise où tout le monde se sentirait appartenir à une nation. Et tout le monde serait responsable de défendre cette nation. Le patriotisme, c'est ce qui nous manque ici. Parce que comment expliquer que quelqu'un qui a été investi d'un pouvoir politique, quand il a une fonction politique, le premier réflexe qu'il a, c'est en fait dilapider le denier public. Ça, on n'aime pas son pays. Et c'est pas seulement les diplomates qui doivent vendre l'image du mal du pays. Tout Congolais, il est censé être diplomate de son pays partout où il se trouve. Alors, que constatons-nous? Essayez seulement de voyager à l'extérieur. Là. Les premières personnes qui critiquent le Congo, ce sont les Congolais eux-mêmes. Je prends l'exemple de nos compatriotes qui résident en Europe, un peu en dehors du pays, la diaspora. Ce sont ces gens-là qui détruisent l'image du pays. Et ces gens-là qui ne méritent pas cette nationalité congolaise. Il faut d'abord que nous-mêmes, nous nous sentons congolais au départ. Parce que nous n'avons comme patrie que ce pays. Il faut que nous nous sentons appartenir à une nation congolaise qu'on doit aimer, qu'on doit défendre. Ce n'est pas seulement la charge du diplomate. Et je crois que notre diplomatie, moi en fait, je me dis, quelque part, c'est comme si de nous-mêmes, on ne se représente pas la vallée de notre pays. Imaginez juste la position géographique du Congo. Le Congo est au centre de l'Afrique avec 9 voisins. C'est que nous avons 9 problèmes à gérer. Et si on prend en compte le Sahara Atlantique, ça fait en fait 10 problèmes à gérer. Et nous devons avoir une diplomatie qui soit très forte. Et la meilleure façon d'imposer, parce que c'est nos 9 voisins-là, pour que nos problèmes ne puissent pas être transposés chez nous, parce que ce que nous connaissons à l'Est, c'est quoi? Le désordre à l'Est, c'est pas venu du Congo, c'est un désordre venu d'ailleurs. Et nous devons faire en sorte que les problèmes de nos voisins ne puissent pas déstabiliser notre pays. C'est que nous devons arriver à constituer une diplomatie qui soit en mesure de dissuader tous nos 9 voisins pour qu'ils ne puissent pas exporter leurs problèmes chez nous. Et je crois qu'il y a un adage qui dit qui veut la paix prépare la guerre. La meilleure façon pour nous de faire une vraie diplomatie de paix et de développement, c'est d'abord de se rendre très fort. Parce que quand on est très fort, on sait se faire respecter. Quand on est très fort, on sait imposer une ligne de conduite. Et nous avons l'obligation, nous, Congo, d'arriver à ce stade-là, parce qu'on a 9 voisins à gérer, on a 9 problèmes qu'il faudra tous les jours intégrer dans notre politique intérieure. Et pour que nous arrivions à vivre dans un environnement stable, il faut que nous nous sentions d'abord forts au départ et travaillons pour que réellement nous soyons forts les autres.
Michel Kabongo, je rappelle que vous êtes directeur de l'agence congolaise de presse ACP Ville de Kikwit au Bandundu. Et la meilleure façon d'avoir une diplomatie de paix et de développement, c'est de d'abord se rendre très fort. Est-ce que vous partagez ce point de vue de Faustin Kodia Sala?
Oui, je partage son point de vue et j'ajoute qu'il faudra mettre à la place, il faut quelqu'un qui travaille bien. Vous voyez par exemple, quand vous mettez les ambassadeurs selon le clientélisme, vous ne tenez pas compte de la carrière, les ambassadeurs de carrière, vous les laissez à côté. Et comment ces gens-là pourraient bien travailler? Et ce que nous devons faire, c'est de réduire aussi les missions diplomatiques. Par exemple, on part à l'Est, on met seulement l'ambassadeur soit en Zambie, soit au Zimbabwe, et il regarde tout l'Est, vous partez à l'Ouest également, vous deux ou trois missions diplomatiques, au lieu d'avoir beaucoup de missions diplomatiques, où les gens sont en train de souffrir. Et il faudra aussi qu'on pense au social des ambassadeurs. C'est vraiment une honte pour nos ambassadeurs, il semble qu'ils sont en train de vivre la malicité, et ce n'est pas une bonne chose.
Merci, c'est la fin de cette émission. Mimi Kindou était à la technique, Alain Irungo à la réalisation assistée de Samuel Katak, sous la supervision de Ben Kabamba, devant le micro Guy Maté. Merci et bonne suite du programme sur Radio Capi. The other one is 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 the other one is